Je suis Marie-Joseph de Villers, je suis une militante lesbienne féministe, j'aime bien me présenter comme ça, sous les deux axes, parce que c'est vraiment ça qui a structuré tout militantisme, mais pas que, en fait. La question des droits humains, la question de la justice sociale, c'est ce qui traverse tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, sachant que j'ai maintenant 74 ans, donc j'ai la chance d'avoir vécu 1968, d'avoir été active à cette période-là. Donc voilà, ma formation politique, elle date de ces années-là, pas que, mais voilà. Et je suis aujourd'hui coprésidente de la CIAMS, la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité substitution. Je suis aussi coprésidente avec ma compagne, qui est aussi coprésidente de CQFD, Lesbiennes Féministes, une organisation lesbienne qui existe depuis 97 et qui gère un fonds de solidarité lesbienne qui nous permet à la fois, chaque fois qu'il y a un procès en lesbophobie, de pouvoir financer les avocates, mais aussi de soutenir à l'étranger des lesbiennes qui sont persécutées, qu'il faut exfiltrer, enfin voilà, pouvoir avoir une capacité d'action à l'étranger. J'ajoute une chose très importante pour moi, c'est que je suis internationaliste. Je ne suis pas ancrée sur ce territoire, mais toujours dans mon militantisme, ce qui était important, c'était de regarder au-delà des frontières. Donc deux choses, cette action lesbienne au-delà des frontières, très importante, et puis la coalition internationale pour l'abolition de la maternité substitution qui concerne le monde entier.
Je pense qu'on pourrait aussi ajouter que tu es cofondatrice de la Women's Déclaration internationale France, nous femmes,
Ah, j'ai oublié.
avec moi aussi d'ailleurs et quelques amis. C'est aussi une action internationale, hein, puisque la WDI, c'est mondial.
Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. En fait, je pensais en parler dans le cours de notre entretien, mais
Alors,
j'oubliais cette chose très importante qu'on a créée ici en France, la branche française de WDI, la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, version France.
bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
Alors, je vais essayer de ne pas remonter trop loin, mais je vais partir deux choses. Vraiment, ce qui m'a formée, quand je regarde rétrospectivement sur cette longue période, ce qui m'a formée, c'est il y a plusieurs choses qui ressortent. Premièrement, mon père m'a appris l'antiracisme. Très, très simplement, j'avais 5 ans et moi, je viens d'un village. Et chaque année, en fait, il y a ce qu'on appelait des romanichels qui passent. On les connaît, ils s'installent toujours au même endroit. Les enfants viennent à l'école. S'est intégré dans la vie du village. Et les ragots des enfants à l'école, c'était de dire ce que disaient les enfants entre eux, oh, les romanichels sont là, alors les poules et les animaux vont disparaître. Et mon père me dit, ah oui, justement, c'est curieux. Quand les romanichels sont là, les poules disparaissent. Et tout d'un coup, moi, c'était lumineux. Les gens du village, en fait, profitaient de l'arrivée des romanichels pour faire leur petite fredaine, leur coup bas. Et donc, vraiment, moi, j'ai appris l'antiracisme comme ça. Et puis, deuxième chose, je viens d'une famille, je suis typique de ma classe sociale. Moi, je suis vraiment un exemple de ma classe sociale. Il n'y a pas plus représentatif. Mes grands-parents, du côté de mon père, agriculteur, du côté de ma mère, petit fonctionnaire. Mon père, d'agriculteur, devient artisan. Ma mère, femme au foyer. Mais elle a de l'ambition pour ses filles. Ses filles doivent avoir un travail très important. Je viens d'une région aussi, une région ultra-catholique, et elle va nous envoyer à partir de la sixième à l'institution Notre-Dame de Besançon. Je tombe sur des bonnes sœurs qui ont un costume absolument magnifique. mais qui nous considèrent comme des êtres humains, pas comme des femmes. On est des êtres humains, c'est-à-dire pour nous, il n'y a rien qui est limitatif. Alors je dis ça, c'est très important parce que arrive 68, et la bonne sœur qui nous enseignait le français, moi j'étais en seconde, elle arrive le matin, nous, on est des internes, on est tout à fait obéissantes, donc on est là comme tous les jours, et nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites ici? Tous vos camarades de tous les autres lycées sont dans la rue. Ça, c'était une chose extraordinaire parce que elle nous a donné l'autorisation, ben, une sorte de permission d'être des êtres humains, mais d'agir aussi.
Elle vous a donné la bénédiction.
Mais je ne sais pas, la bénédiction, le coup de pouce, le truc qui t'autorise à
Déclencheur.
vie,
Incroyable.
extraordinaire. Et donc, bon, je termine et je décide de mon orientation et je fais une prépa HEC. Et là, c'est terrible parce que je tombe dans une classe où j'étais la seule femme, la deuxième femme qui était là, elle quitte tout de suite, elle ne tient pas 3 mois. Et puis, on me fait savoir que l'an passé, la seule femme qui était là aussi, elle a fini en méningite. Alors déjà, on me dit, toi, faible femme, tu ne vas pas y arriver. Mais aussi, ce qui est pire, c'est que là, je tombe de statut d'être humain à statut femme. Je ne connaissais pas ça. C'était, moi, c'était un tel choc parce que dans cette classe, je n'étais pas au même niveau que les autres. Les garçons ne pouvaient pas m'adresser directement la parole parce qu'on n'adresse pas la parole à une inférieure. Et donc, c'était à moi, si je voulais leur parler, de prendre les devants. Et donc, on me considère comme, bon, personne inférieure, enfin, même pas, je ne sais pas, quelque chose d'inférieur. Et c'est une chose terrible parce que je n'avais pas les éléments pour pouvoir comprendre ça. Et moi, j'ai fait une année Roxy Mentale, donc j'ai voulu vraiment supprimer toutes mes caractéristiques féminines, parce que c'est simple, tu arrêtes de manger, tu n'as plus de règles, tes seins disparaissent, voilà, c'est bon, quoi. Tu es un être désincarné, en plus, c'est un petit peu. Ça donne une énergie folle. C'est absolument incroyable. Ça booste comme c'est pas possible. Mais je voulais en même temps me supprimer parce que je ne pouvais pas affronter cette condition de femme subalterne. Je ne pouvais pas. Moi, j'étais un être humain, mais je n'avais aucun code pour décrypter ce qui se passait. Aucun, aucun. Ça, c'est très important parce qu'après, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps après pour trouver le féminisme et pour trouver l'explication à ce qui s'était passé. Parce que je ne l'ai pas appelé comme ça, je ne savais pas ce que s'était passé. C'est ma mère qui m'a récupérée, ça a failli me le finir, mais bon, je m'en suis sortie très bien. Mais le jour où j'ai pu décrypter ce qui s'était passé, c'est le féminisme qui m'a appris à le décrypter, qui m'a fait comprendre. Et ça c'est une ligne extrêmement importante dans ma vie parce que je comprends ce que c'est qu'affronter la condition des femmes, pouvoir s'y inclure. Et il n'y a qu'avec le féminisme que j'ai pu, moi, m'y inclure en tant que personne humaine, avec toutes ses capacités. Enfin, mon contact avec le féminisme, c'est vraiment le contact que les femmes de mon époque, quand elles étaient, je ne sais pas, un petit peu ouvertes sur le monde, avaient. C'est-à-dire, on lisait énormément, on se rencontrait, les réunions à n'en plus finir. C'était vraiment une période tellement foisonnante, tellement incroyable. Après, il y a le moment où je me forme et puis bah, on lit, on se rencontre, on participe. Alors à ce moment-là, j'arrive à Paris, la Maison des Femmes, enfin toute cette espèce de foisonnement. Les lesbiennes d'un côté qui font du wendo, les féministes luttent des classes aussi à la Maison des Femmes. Enfin, c'était absolument extraordinaire. On avait un programme tellement chargé. Tous les soirs, on avait une réunion. Enfin, c'était tellement, tellement vivant. Et en même temps, c'était dans un contexte où on marquait des points tout le temps. Des points sur l'antiracisme, des points sur le féminisme, contre le viol, l'égalité des droits. Enfin,
Donc
c'était
là, on est dans les années 80, je pense,
les
à peu
80,
près.
les années 80. On arrive dans les années 80. Et puis, je m'investis, donc de hétéro, je passe à lesbienne, comme le schéma de la plupart d'entre nous à mon âge, quoi. Enfin, quoi, tu sais que ça existe et que c'est une possibilité qui t'est ouverte et que voilà, tu vas pouvoir enfin devenir un peu toi-même. Et c'est à ce moment-là que je m'investis vraiment dans le mouvement lesbien. Alors, je vais m'impliquer. Je vais passer, en fait, en m'impliquant dans le mouvement lesbien, je vais passer un peu d'une période où je me forme, je lis, je n'arrête pas, je fais énormément de choses, j'apprends le chinois, enfin bref, tout un tas de choses. Mais passer à l'action. Je suis passée à l'action avec l'organisation du festival Quand les lesbiennes se font du cinéma. Ce festival existait déjà, mais sous une forme un petit peu pas suffisamment structuré, qui pouvait s'améliorer.
Est-ce que c'est le festival Cinéfable?
Oui, c'est le
D'accord.
festival Quand les lesbiennes se font du cinéma, qui a été d'abord porté par une organisation qui s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelait, et ensuite, nous, on était une équipe de lesbiennes et on a décidé qu'on ne voulait pas laisser tomber ce festival, mais qu'il fallait qu'on s'investisse là-dedans. Et pour s'investir, il fallait arriver avec un autre lieu, un véritable lieu qui serait un festival avec deux salles de projection, enfin un vrai festival. Et donc, ça, c'est vraiment passage à l'action avec ce festival. Et c'est là où j'ai appris des choses extraordinaires comme fonctionner en réseau et jamais de façon hiérarchique, créer les conditions pour fonctionner de façon non hiérarchique, avoir une hiérarchie de compétences, mais pas de hiérarchie, enfin, c'est-à-dire d'être reconnu pour ses compétences et pour sa contribution et pas pour son statut. Vraiment, c'était une expérience, on pouvait tout mettre en pratique. Et c'est là aussi où on apprend dans ce contexte-là que si tu décides de quelque chose, tu peux le réaliser. Il suffit de faire. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Absolument rien. Et il n'y a rien qui nous arrêtait. Donc c'était très très jouissif en même temps. Enfin,
J'aime
je veux dire.
tellement entendre ça parce que c'est tellement ça en fait. C'est ça les filles. Vous avez une idée, mais faites-le. Faut le faire.
Voilà. Il n'y a qu'à passer à l'action.
C'est
Et
ça.
c'est aussi, il y a une chose très importante, c'est que quand on sait qu'on est vraiment dans la droite ligne de ce qu'on aimerait faire, c'est le degré de plaisir qu'on éprouve à le faire. Voilà, le jour où il n'y a plus de plaisir, c'est qu'on n'est plus dans la bonne ligne. Bon, voilà, c'était le plaisir. Et après, c'était totalement génial. Et ensuite, j'arrive. Après, il y a une autre orientation qui est donnée, c'est-à-dire le festival d'un côté, mais nous, on décide de partir plutôt du côté de la visibilité lesbienne, avec un concept que, ben non, les lesbiennes, elles sont totalement invisibilisées derrière le concept d'homosexualité. Il faut que les lesbiennes existent. Et donc, on va créer ce qui va s'appeler la fierté lesbienne et qui va prendre la forme d'un événement qui va se loger derrière la marche des fiertés, alors avec dans une salle prestigieuse avec un salon des associations. Elles venaient de toute la France, hein, même d'ailleurs, d'Italie d'ailleurs, pour qu'on puisse se rencontrer tout ce qui était ce monde lesbien et féministe, parce que les deux étaient toujours accrochés. Donc, on a animé ça. Il y avait une grande fête, il y avait 2000 femmes, enfin, c'était absolument énorme. De toute façon, notre travail était bien sûr bénévole et donc tous les excédents, on les a soigneusement mis de côté et ça nous a permis justement de créer ce fonds lesbien dont je parlais au début, qui nous permet toujours d'ailleurs de faire face à des procès et puis de se structurer. Arrive aussi en 97, c'est vraiment un apogée de création des organisations, de structuration du mouvement. Ça va être très, très éphémère, ça ne va pas durer longtemps, ça va vite péricliter. 97, création de la coordination lesbienne. Et donc, avec notre organisation, CQFD, qui portait cette opération Fierté lesbienne, on va s'y impliquer. Et c'est dans ce contexte, en fait, 97, la coordination se crée. 2001, le manifeste de la coordination prend deux points très, très importants. Les lesbiennes féministes, on se déclare contre le système prescripteur et on se déclare contre ce qu'on appelait à l'époque le recours aux mères porteuses. C'est très important. Donc ça, c'était 2001. Et ensuite, donc, les choses continuent. On continue, fierté lesbienne, on fait énormément de choses. Et puis arrive 2009. C'est le moment où arrive la question de la GPA, qui envahit en fait le mouvement LGBT. Ça, c'est une invasion. Et très important, les organisations lesbiennes, il y en avait à peu près dans toutes les villes à cette époque-là. Et là, toutes on s'organise pour bloquer la revendication de la GPA dans les mouvements gays, dans les mouvements LGBT. À Marseille, le CEL bloque la revendication en 2009, en 2008-2009, Strasbourg. Paris, on bloque aussi. Lyon, on n'arrive pas à bloquer.
Qu'est-ce que tu entends par bloquer? On arrive à bloquer concrètement, c'est ça se...
Concrètement, en fait, chaque fois qu'il y a la marche des fiertés, il y a un mot d'ordre. Il y a une revendication qui est affichée. Et là, on voit arriver cette revendication pour la GPA.
D'accord, donc
Il y
vous
a
vous
eu
activez
tous.
pour que cette revendication ne soit pas en tête de cortège de la marche des fiertés.
Pour que ça ne soit pas une revendication du tout. C'est le poids des lesbiennes dans ces mouvements-là à l'époque. On était capable de bloquer une revendication en disant non, ça ne représente pas l'ensemble du mouvement, non, lesbienne féministe, non, vous ne pouvez pas revendiquer ce genre de choses, c'est contre nous. Mais ma compagne, donc, qui représentait la coordination auprès de l'inter LGBT à Paris, donc qui réunissait toutes les organisations LGBT et quelques L à Paris, nous fait savoir que vraiment, ça devient très intense. Il y a des organisations qui se créent spécifiquement pour faire basculer l'inter LGBT du côté de la revendication de la GPA. Donc, il va falloir, il faut faire quelque chose. Donc, 2009, il y a une très, très grande réunion. Ma compagne organise, fait en sorte que l'inter-LGBT se réunisse pour prendre position sur ce sujet. Jusque-là, l'inter-LGBT ne voulait pas prendre position, mais ça devenait crucial avec l'idée que si l'inter-LGBT ne prend pas position, ça veut dire que l'inter-LGBT est pour la GPA. C'était clair. Et donc, on fait cette réunion. Et là, c'est un moment crucial parce que ce qu'on découvre, donc tout le monde est autour de la table. Nous, lesbiennes féministes, on a un discours tout à fait clair. Et en face de nous, on a une revendication individualiste pour la GPA. Qu'est-ce qu'on entend ce jour-là? On entend la société, je ne l'ai jamais rencontrée, je fais ce que je veux. On entend les hommes sont faits pour la guerre, les femmes sont faites pour faire des enfants. On se dit, on est où? Mais on est où, quoi? On est où? On est avec qui, là?
Moi,
Et à
j'ai
tel point que.
on se croirait dans le truc de la famille
Le
Poutous là.
renseignement.
On a
Et à tel.
l'impression que c'est l'extrême droite qui parle.
Oui, à tel point que l'une d'entre nous, une lesbienne, de l'autre côté, m'a dit, mais je suis où là? Je viens de rencontrer l'homo patriarcat. Et ce terme m'a beaucoup marqué parce que vraiment, c'était ça. Et donc, en sortant de la réunion, on dit, mais c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Enfin, on n'a plus rien à faire avec ces gens-là, quoi. On le savait déjà, mais à ce point, bon. Et donc, la coordination lesbienne va décider de se séparer de l'inter-LGBT, de faire sécession. Mais aussi, on va sortir un manifeste. Pourquoi je suis contre la GPA? Mais on se dit, nous, lesbiennes féministes, on ne peut pas porter cette question seule. Et on va rencontrer le mouvement féministe pour que ce mouvement féministe porte ce sujet. Et donc, on rencontre Maya Surdut et puis on fait en sorte que le manifeste soit signé par la CADAC, enfin, la coordination lesbienne et puis le planning familial à l'époque. Voilà. 2010. Le manifeste sort. Parfait. Bon, ça, c'est le côté GPA. Et ensuite, dans les années 2015, 2013, 2014, il y avait cette organisation qui s'appelle Women Gathering, qui était une organisation un peu très éphémère parce qu'elles ont fait deux sessions, non, trois sessions, je crois, une en Grande-Bretagne et deux en France, qui était un truc un peu sponte, comme les jeunes femmes de cette époque-là savaient les organiser, une chose énorme avec des femmes qui viennent d'un peu partout. Et à ce moment-là, il y a une conférence où intervient Sheila Jeffrey, qui nous parle de ce qui se passe au niveau de l'idéologie trans dans les pays anglo-saxons. Ce qu'elle nous raconte, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Vraiment, ce qu'elle disait à l'époque-là, 2014-2015, je pense, à peu près, dans ces eaux-là. Et moi, je me dis, c'est pas possible. Ça, c'est les anglo-saxons qui ont un problème avec leur corps. Jamais ça nous arrivera. Jamais. Et puis, c'est quelque chose qui m'interpelle, enfin, vraiment qui m'interpelle. Cette autodestruction de soi avec la transition, c'est tellement difficile à concevoir, à accepter.
Oui, il y a un
Voilà.
côté un peu nihiliste, en fait, dans
Totalement, cette
Oh, je
violence de la société qu'on retourne contre soi-même, c'est un truc.
On parle de transhumanisme, mais moi, je dirais même du post-humanisme. On a l'impression que, finalement, on essaye de dépasser les limites du corps, quelque part, les limites de l'humanité. Et d'ailleurs, la GPA, c'est un peu pareil. On a des
Oui,
réalités.
tout à fait, on est sur le même fil que le transhumanisme. Ça, c'est clair. Hein. C'est tout à fait clair. Hein. Des deux
Donc là,
côtés.
tu as une espèce d'épiphanie et tu te dis, ça, c'est pas possible.
C'est pas possible, mais ça reste comme ça dans mon esprit. Et puis ensuite, je vois arriver, parce que je suis pour la question de la GPA, puisque je suis en 2018, on crée la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, mais avant. Depuis 2015-2016, on était super actifs sur le côté de la GPA. Donc moi, je suis constamment sur les réseaux sociaux et je vois arriver la déclaration des femmes basée sur le sexe. Ah, alors là, je lis ça avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai un vieux réflexe qui me dit, est-ce que ça, c'est pas un truc essentialiste? Et donc, je demande à l'une, Jocelyne Fildard, justement, je lui dis, écoute, lis ça et dis-moi en ton âme et conscience, est-ce que c'est quelque chose d'essentialiste ou pas? Elle me dit, mais non, pas du tout, pas du tout. Et je commence à en parler. Je suis invitée par Suzy Rothman devant une réunion du CNDF pour parler de cette question-là. Et moi, je cite, parce qu'elle demande d'expliquer un, la GPA, deux, l'idéologie trans. Et donc, moi, je reprends toutes les définitions du WDI, enfin de la déclaration des femmes basée sur le sexe, et c'est lumineux. Tout s'explique, c'est tellement clair. Et puis ensuite, bon, la GPA est toujours présente, mais ce sujet-là, là, il est très important. Il est très, très important. Et je commence à regarder un peu sur les réseaux sociaux qui est-ce qui prend des positions sur le sujet. Donc, je vois Francine Borenda, j'en vois plusieurs. Je vois Marguerite Stern, je vois enfin, celles qui prennent la parole individuellement, quoi. Et puis, je commence à en contacter plusieurs et puis, on essaie de se connecter. Et c'est comme ça, en fait, à ma grande surprise, que de proche en proche, en fait, se créent nos femmes. Et ce qui m'a beaucoup frappée, alors là, c'était pour moi des découvertes extraordinaires, parce que ce que je vois, c'est que ce sont des jeunes femmes qui sont interpellées par ce sujet parce qu'elles ont été confrontées à cette idéologie de façon super concrète. Mais aussi, moi, ça me touche énormément parce que ce qu'elles disent, c'est exactement ce que j'ai vécu avec l'anorexie mentale, c'est-à-dire tu fuis ta condition de femme, tu veux disparaître en tant que femme pour te transformer en je ne sais pas quoi. Moi, c'était voilà, c'était clair, j'avais voulu m'en sortir comme ça. Elles, je vois que certaines donc sont entrées là-dedans et que certaines sont allées jusqu'à commencer des transitions. Je vois tout de suite ce que ça peut faire à une jeune femme, ce que ça représente comme potentiel issue à un malaise qui se comprend tout à fait. Une mauvaise issue, évidemment, à une impasse aussi. Et ça me touche personnellement énormément. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on arrive à nos femmes et que dans cette séance où elles racontent tout leur parcours, on se dit, mais il faut en faire quelque chose et que tu prends la balle au bond, Blandine, et que voilà, Rebelle du genre se crée.
Rebelles du genre et puis WDI, effectivement, on était
Et le WDI, puisque
au
ce groupe
départ.
Konotef,
D'abord WDI, puis Rebelles du genre, ouais, dans le cadre
voilà,
de.
ce...
Ouais.
enfin, à l'époque, on s'appelait Nous Femmes et moi,
On s'appelait
dans ce groupe,
Effacement
on
des
s'appelait
femmes.
Nous Femmes.
Oui, c'est
Effacement des femmes, voilà. Puis vraiment, c'est très bien d'avoir une mémoire précise parce
J'étais
que on a
là toutes
commencé
les
par
étapes. Ouais, Effacement des femmes,
non
nous
à l'effacement des femmes,
femmes.
c'était non à l'effacement, no effacement des femmes. Puis après, donc
Nous femmes.
nous femmes, ça c'était Yamour, c'était Yamour qui avait lancé ça, qui avait créé le Gmail et l'avait appelé nous femmes.
Voilà, moi j'avais insisté pour le E au milieu.
Ouais.
Et puis il y avait ensuite a été le WHRC, puisque c'était le
Ouais.
mondial, enfin quand on s'est regroupé avec les autres associations.
Alors, on crée ce groupe, une femme, on se réunit une fois par mois et tout ce qui arrive, c'est. Et puis cette énergie aussi, ces jeunes femmes qui sont là et qui écrivent des grands textes et qui sont vraiment dans l'écriture souvent, qui tentent de faire des choses de tous les côtés. Et moi, je prends contact avec le WDI, WHRC, comme tu le dis, Blandine, en Grande-Bretagne, pour deux choses. D'abord, parce que moi, j'ai signé très, très vite la déclaration. Notre organisation, c'est que a très, très vite signé la déclaration. Dès que Jocelyne nous a dit, qui est la troisième coprésidente, nous a dit que ce n'était pas du tout essentialiste, donc on a signé. Et puis aussi, moi, je fais en sorte, j'introduis la question auprès de la coalition internationale. Parce que je pensais que la coalition devait aussi signer. Donc, on est d'accord, au cours d'une AG, on prend la décision, donc on signe. Et puis, à ce moment-là, Jo Brew, la coordinatrice du WDI, me propose d'intervenir sur la GPA, puisque la GPA est intégrée dans les 9 principes, je crois, du WDI. Donc, j'interviens. Et puis, de proche en proche, comme ça. J'interviens, ensuite je vais intervenir une deuxième fois, mais je vais intervenir avec aussi Ghislaine Gendron de PDF Québec, qui à l'époque était à PDF Québec, mais qui venait d'en sortir, avec encore deux autres femmes. C'était une séance organisée par le WDI uniquement sur la GPA. Et à la fin de cette séance, Joe nous demande de rester et nous dit, mais est-ce que vous n'auriez pas envie de faire le WDI francophone? Nous, on a sauté vraiment sur l'occasion. C'était une nouvelle façon d'agir aussi dans le sens d'éclairer sur ce qu'est la transidéologie. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que arrive aussi cette action dans le WDI France.
Pourquoi est-ce que tu penses que cette idéologie constitue une menace spécifiquement pour les femmes et les droits des femmes, bien sûr, et aussi pour les enfants et de façon plus générale pour la société.
Alors, que ce soit du côté de la GPA ou du côté de l'identité de genre, ce qui arrive en commun des deux côtés, c'était l'effacement de la notion de femme. Je l'ai vu très très vite dans la GPA, où en fait, un pays comme je crois que c'est la République tchèque, qui se vantait dans la loi autorisant la GPA dans leur pays, de ne pas parler de mère porteuse ou de femme porteuse, mais de parler de porteuse, de gestational carrier, porteuse de gestation, pour la traduction. Donc, tu vois arriver à ce truc-là. Je vois les chercheuses au Mexique, des chercheuses qui, dans leur recherche, leur analyse de la GPA au Mexique et en Amérique du Sud, sont très très fières aussi de supprimer le mot femme parce que le mot femme serait essentialiste. Et dans l'autre sens, même chose, avec identité de genre, on supprime femme, on élimine ce concept, cette notion, on nous élimine en fait, on nous élimine complètement. Et on arrive donc de quelque chose qu'on très très vite on va identifier comme étant du masculinisme. Que ce soit côté GPA, que ce soit côté identité de genre, on est à 100% sur le retour du masculinisme, mais le masculinisme avec de nouveaux outils, avec la science derrière, avec les capitaux derrière. Donc on est vraiment dans une situation où, alors que dans les années 70, on allait de victoire en victoire, qu'on marquait des points tout le temps sur la société, sur la façon dont on pouvait faire évoluer la société, aujourd'hui, avec cette question-là, on n'est plus que sur deux choses. On n'est plus que, nous, féministes, sur la défensive, on défend nos droits, on défend la possibilité d'exister en tant que femme, mais aussi on est face à quelque chose qui est terrible, c'est que tout se réduit à des questions individuelles. Et pour nous, nous autres qui avons toujours été dans le collectif, toujours été branchés sur comment améliorer notre société collective, comment améliorer notre humanité commune, on nous ramène à quelque chose d'éminemment destructeur, parce que c'est ce que disait ce type-là, la réunion d'inter-LGBT. Moi, la société, je n'ai jamais rencontré, donc j'en ai rien à faire, je ferai ce que je veux. Donc on en est là. Donc on est en train, par ces deux biais-là, de ces deux côtés GPA et puis identité de genre, on est en train de démolir notre société, notre humanité, quoi,
On
notre humanité
démolit
commune.
les femmes individuellement et les femmes collectivement.
Oui, complètement. Des deux côtés.
Les deux côtés, oui, tout à fait.
C'est pas très marrant.
Non, c'est
Mais
sûr.
bon, on est là.
On
On
est
est
là, on
là.
se bat,
On
oui.
est là.
Et d'ailleurs, c'est peut-être le moment pour introduire le livre dont tu as dirigé avec Anna Luna,
Anna Luana. C'est des rames, oui.
voilà, le livre qui s'appelle Ventre alloué, une critique féministe de la GPA aux éditions L'Échappée. Donc, si vous voulez avoir un discours vraiment construit et très complet sur cette question de la GPA, achetez ce livre. Je pense que vous aurez vraiment toutes les réponses aux questions que vous vous posez.
Je crois que c'est vraiment une bonne base pour comprendre quelque chose, mais surtout pour être capable d'aborder la question de la GPA sous des angles différents. Parce que souvent, en fait, c'est un peu ce qu'on se disait quand on a lancé cette idée de livre, un peu ce qu'on redoutait quand on a fait un appel à contribution. On redoutait qu'en fait, toutes les contributions soient les mêmes, c'est-à-dire marchandisation du corps, des femmes et tout ça. Mais non, dans ce livre, la GPA, elle est abordée sous tellement d'angles différents, à la fois historiques, à la fois tradition, à la fois scientifique, à la fois linguistique, à la fois la situation des enfants. C'est vraiment, c'est une somme et je suis super contente qu'on soit arrivé, qu'on soit arrivé à sortir ce bouquin qui maintenant est traduit en 5 langues.
C'est un travail colossal, alors vraiment bravo pour toi et toutes les autrices.
Ah oui, vraiment, quel beau travail.
Aujourd'hui, je te demande qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner? Tu le fais de façon en plus tout à fait ouverte avec ton vrai nom. Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces? Est-ce que tu te sens en sécurité ou en danger, toi ou tes proches, par rapport au sujet de l'identité de genre?
Oui, témoigner en mon nom. Moi, j'ai toujours milité sous mon nom et c'est évident pour moi que je ne peux que témoigner en mon nom personnel et de façon non anonyme. Alors, je réfléchissais à la question des risques. Je réfléchissais l'autre jour à cette question parce que moi, je n'ai jamais été ni harcelée ni confrontée à aucune situation qu'on pourrait qualifier de risque. Alors, je me posais la question, mais moi, j'ai jamais fonctionné. Enfin, Marie-Joseph de Villers, enfin, je veux dire, ça n'est pas un personnage, ce n'est pas une personnalité. Moi, je suis toujours, enfin, je suis évidemment toujours dans le collectif, et je suis toujours au service, enfin, je suis toujours intégrée à un collectif, et ça n'est jamais moi que je représente, mais c'est toujours ce collectif. quand je parle de nous femmes, ou je parle de la SIAMS, ou je parle de CQFD lesbiennes féministes, je veux dire, c'est ces collectifs par lesquels je peux exister, je peux agir, mais moi, je ne suis pas une individu. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'on ne m'a jamais attaquée, parce que je ne me représente pas moi-même, mais ce que je mets en avant, c'est toujours ces collectifs. Et donc, CQFD lesbiennes féministes, non, on ne nous a jamais, jamais attaqués. Mais peut-être que si on nous a attaqués, j'ai oublié. On nous a confrontés, on nous a contredites, mais on ne nous a jamais harcelés, on ne nous a jamais, jamais fait l'objet de violence. Ah oui,
Parce
si,
que...
si, juste une fois, juste une fois. C'était un 25 novembre contre les violences. Donc, on avait une grande pancarte double sur d'un côté contre le système prostitueur et contre le système de la GPA, d'exploitation reproductive des femmes. On avait cette pancarte double. Et très dans cette espèce d'énergie des 25 novembre, c'était départ, c'était opéra, donc c'était assez enthousiasmant. Et très, très vite, quand on a commencé à partir, on a reçu des bouteilles de coca, enfin des projectiles, voilà, des projectiles. Et alors là, ça, je ne connaissais pas ça, j'avais jamais connu ça. Et plus loin dans la marche, il y a une jeune femme qui est arrivée en disant, parce qu'on avait évidemment nos tracts, voilà, nos tracts, et qui nous dit, je vais vous aider à distribuer, donne-moi aussi des tracts. Et moi, je suis super naïve, et évidemment, j'ai donné. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ou plutôt, j'ai rien vu du tout, parce que moi, je continuais. Et il y a une dame qui est passée en disant, la dame à qui vous, enfin, la jeune femme à qui vous avez donné vos tracts, elle est en train d'être déchirée. Je suis allée la confronter et elle m'a sorti un discours sur ces pauvres femmes sans utérus qui étaient la doxa
Les femmes sans utérus, tu peux m'en
les
dire
femmes sans
plus.
utérus qui nées sans utérus qui avaient besoin de GPA, que j'étais tellement cruelle de ne pas penser à ces pauvres femmes.
Et elles sont
Et
nées avec un pénis en plus.
bref,
Voilà.
enfin bon.
À la dernière manifestation, je crois que c'était le 25 novembre dernier, c'est la même chose. Moi, c'est la mère d'une jeune femme transidentifiée qui m'a agressée, alors que j'avais un panneau contre la GPA, bien sûr, et en fait, en disant que j'étais transphobe, parce que, évidemment, sa fille ayant subi toutes les opérations, etc., ben, elle était devenue stérile. Et donc, elle m'a dit, bah, vous vous opposez aux droits des personnes trans parce que la GPA, c'est leur seule façon de devenir parents. Alors déjà, si tu n'avais pas fait couper à ta fille, peut-être qu'elle ne serait pas stérile. Mais il y a plein d'autres façons de devenir parent, pas forcément de mettre en esclavage une femme et d'acheter un enfant, en fait.
Tu fais bien de souligner ce point. C'est Ghislaine aussi qui le soulignait parce que on discutait avec Ghislaine, donc qui est WDI Canada, Québec, et qui travaille énormément contre la GPA. On parlait du Luprone, ce médicament qui est utilisé à la fois pour bloquer la puberté et à la fois dans la GPA qu'on dispense aux mère-porteuse.
Oui, le Dupron étant au départ un traitement anti-cancer
Pour la
de
prostate, pour
prostate.
cancer de la
Et
prostate.
ensuite, on a trouvé comme débouché à ce médicament merveilleux, il est utilisé comme castrateur chimique pour les criminels sexuels. Mais on a arrêté de le prescrire dans ce contexte-là parce que pour ces hommes violents, criminels, etc., il y avait trop d'effets secondaires. Donc, on s'est dit, tiens, à qui on va le donner? Eh bien, à des enfants, bien sûr.
Ouais. À des enfants et à des femmes candidates mères porteuses, donc avec effectivement des effets secondaires super graves. Et Justine disait, ben voilà, on a bouclé la boucle. Avec le Luprone, on fabrique des personnes stériles, garçons, filles, qui vont ensuite avoir recours à la GPA. Et donc elle disait, de la stérilité à l'utilisation de la GPA. Voilà, donc la boucle est bouclée. Le système pharmaceutique est très très content
Et sachant
d'avoir
qu'après,
la chirurgie.
les fameuses mères d'intention, on leur donne à leur tour du Lupron pour surtout pas qu'elles aient une grossesse naturelle. Hein. C'est ça, je crois. Hein. On doit les stériliser pour pas qu'elles
Aux mères
risquent.
porteuses, ouais.
Voilà,
Mères
aux mères
porteuses,
porteuses.
c'est-à-dire que au moment de transfert d'embryon, il faut absolument pas qu'il y ait une ovulation spontanée. Donc on va bloquer leur ovulation éventuelle spontanée avec du Lupron.
Quelle merveilleuse molécule, quand même.
Ouais,
Ça
vraiment, tire à tout quoi. C'est le couteau suisse de la stérilité. À part cette situation de manif qu'on connaît maintenant toutes dans les manifs, hein, ou dans des environnements qu'on pourrait penser safe, soror, et puis dans nos environnements, en fait, des espaces qui sont les nôtres, se sentir en danger aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est incroyable, incroyable.
Ouais, c'est assez sidérant en fait de se retrouver dans les manifestations pour lutter contre les violences contre les femmes, subir des violences en fait par des hommes qui notamment prétendent être des femmes. Ça, c'est incroyable. C'est un paradoxe, c'est complètement fou.
Ou
C'est vrai.
par des femmes qui sont complices de cette idéologie.
Tout à fait. Il y a effectivement
Enfin,
aussi.
qui sont complices, c'est-à-dire qui sont colonisées aussi par cette idéologie.
Oui, tout à fait. Et elles sont très nombreuses, hein, en fait, les femmes
Oui.
à croire ou à faire semblant de croire qu'on peut devenir une femme. Mais c'est comme ça qu'on voit que ce sont des hommes. On les croit. On les croit. Ils disent, je suis une femme, on les croit. Donc voilà. Nous, les femmes, on ne nous croit jamais.
Mais c'est une question que je me posais. Pour la GPA, par exemple, il est clair que les pro-GPA sont toujours des personnes qui ne seront jamais en situation de devenir mère porteuse ou dont la fille va devenir mère porteuse, qui ne seront jamais connectées, qui ne font pas partie de ces catégories sociales qui peuvent être exploitées. Et
Exactement
donc,
comme pour la prostitution.
pareil, pareil. Mais pour l'identité de genre, c'est très bizarre parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans un environnement d'adolescents qui sont en train de transiter et qui sont, comment dire, tout est mélangé. Voilà, avec l'identité de genre, tout est dans tout et réciproquement. C'est-à-dire, on a tous les cas de figure sur les pro-identités de genre, il y a tous les cas de figure. Des gens qui ne seront jamais, qui regardent ça de très très haut, comme justement les décideurs politiques qui regardent ça de très 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 haut et n'auront jamais de soucis dans leur famille. C'est jamais eux qui porteront les conséquences de ce qu'ils ont décidé. Dans les textes de loi sur identité de genre. Jamais ils seront là pour payer les conséquences. Et puis, en grand public, on n'a pas cette dichotomie sur l'identité de genre entre gens qui sont toujours dans une catégorie sociale qui sont protégés et les autres. Parce qu'on n'a pas une exploitation comme ça de vulnérabilité.
C'est vrai, oui, tout à fait. C'est quand même difficile à expliquer. C'est vrai que pour la GPA comme pour la prostitution, tous les gens qui vont te raconter que c'est merveilleux, etc., c'est des gens qui sont susceptibles d'acheter des enfants et jamais d'être
Ben,
exploités
jamais d'être exploité.
pour leur capacité sexuelle ou reproductive.
Ouais.
Les hommes en premier, d'ailleurs, mais pas que.
Ah, tout à fait, mais dans la GPA, le promoteur, de tous les côtés, hein, c'est vraiment quelque chose qui bénéficie aux hommes, hein. D'abord, soit par le biais du marché, soit dans les couples homosexuels, mais dans les couples hétérosexuels, la demande de la reproduction, de se procurer un enfant génétiquement relié à soi-même, c'est une demande masculine. La lignée, le sang bleu, je ne sais pas quoi, un truc bizarre, quoi. Se reproduire, jeter ses gènes dans l'univers, un truc masculin, ça. Encore des masculinistes.
Donc, je comprends bien que toi, aujourd'hui, bah, tu t'exprimes librement et de façon complètement transparente. Mais du coup, est-ce que tu connais des personnes qui, elles, ont été en danger? Il me semble que tu me disais tout à l'heure que tu connaissais quelqu'un qui avait, au contraire, été harcelé, c'est ça?
Oui, tout à fait, mais je me disais, le fait de fonctionner de façon collective, on est à la fois soutenu, protégé par ce collectif. Mais toutes celles qui vont, je pense, ben, regarde, Marguerite Stern, tout ça, elles y vont perso. Et c'est terrible parce que elles ne sont protégées en rien, quoi. Et toutes celles qui vont de façon ben, individuelle aussi, hein, qui ne vont pas dans une démarche commune, dans une démarche collective. Elles se mettent dans une situation de risque absolument incroyable parce qu'elles sont vulnérables, elles se rendent vulnérables.
Après, on ne peut pas non plus dire que parce que tu es dans un collectif, ça te protège. Regarde le harcèlement qu'a subi le collectif Féminicide Part, qui ne souhaitait pas inventer des pauvres victimes trans de féminicide. Ça a été un harcèlement sans nom, et notamment de la part de nous toutes, hein, qui a été vraiment épouvantable. Et donc, pour le coup, il y avait vraiment quelque chose de collectif
Ça,
autour.
c'est un autre phénomène. Elles ont été confrontées par une autre organisation. Et ça, c'est un peu comment dire, des oppositions idéologiques, hein, ça. On est sur de l'opposition idéologique.
Oui, mais ça s'est traduit par un harcèlement de masse quand même.
Ah oui. Ben, aujourd'hui, les confrontations idéologiques se terminent par des
Ouais.
harcèlements. C'est tout à fait nouveau.
Bon, en tout cas, c'est sûr que la question des violences et du harcèlement, c'est un sujet. Moi, c'est vrai que de mon côté, j'ai quand même été beaucoup menacée, harcelée aussi. Bon, après, moi, ma position, c'est aujourd'hui, j'oute systématiquement les personnes qui m'agressent, systématiquement. Je les affiche.
Ouais, c'est bien.
Donne le plus possible d'informations sur eux, puisque après tout, ils font la même chose sur moi. Puis ça les calme.
Bah, tu construis un rapport de force,
Ah
voilà.
Oui,
C'est
ben oui.
aussi toujours la question de la construction du rapport de force.
Tout à fait. Le
Comment
rapport.
ne pas être en situation de faiblesse, pas être vulnérable?
Tout à fait. Bon, on peut passer peut-être à la question suivante. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme?
Mon histoire d'anorexie mentale, ça c'était un truc, je veux dire, que j'avais digéré fort loin, fort loin. Mais avec le retour de identité de genre, enfin, l'investissement dans l'identité de genre, je me suis mise comme ça à en parler. Et l'autre jour, je parlais à une copine que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je lui dis, voilà, moi, ce qui m'a branchée sur le sujet, c'est je me sens connectée, impliquée, concernée directement par le sujet parce que voilà ce que j'ai vécu. Moi, j'avais décidé de renoncer à ma condition de femme avec les armes que j'avais à l'époque. Et je disais, mais aujourd'hui, peut-être que je serais tombée dans la transidentité. Et puis, je me dis, tu sais, moi, quand j'avais 18 ans, je voulais qu'une seule chose, c'était me couper les seins. Et puis, ce qui m'a sauvée, c'est. Elle n'est pas française, donc il se trouvait qu'elle est lesbienne. Et dans les années 2015-2016, elle était devenue la fierté lesbienne, donc à la grande fête et grands événements qu'on organisait. Elle disait, m'être sentie ce jour-là, avec autour de moi ces milliers de femmes, parce qu'il y avait 2000 femmes dans la salle, de lesbiennes ou bien de femmes hétéro-sympathisantes, elle dit, ce jour-là, j'ai accepté ma condition. Voilà, et on ne me coupera plus jamais les seins, quoi. Et donc, c'est très.
Ce que tu m'as évoqué le début de quand tu as raconté là, c'était tu es passé d'une situation où tu étais en non-mixité avec des religieuses et d'autres femmes, et donc tu n'étais pas un corps sexué, tu étais juste toi parce qu'il n'y avait pas de
Oui,
différence,
j'étais une personne,
pas
oui, une personne.
d'inégalité, pas de hiérarchie. Et puis tu es tombé dans le monde tel qu'il est, en fait, à un moment donné, et tu t'es retrouvé comme ça dans cette hiérarchie. Et c'est ça, en fait, qui est d'une très grande violence pour les femmes. Et effectivement, un des moyens de restaurer ça, c'est de créer ces espaces de non-mixité, de créer cette sororité, ces relations entre nous, les femmes, indépendamment de nos orientations sexuelles, d'ailleurs, tout simplement pour avoir des moments où on est entre égales et on se pose pas la question de est-ce qu'on va être agressé, est-ce qu'on va nous faire des remarques sur notre physique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous couper la parole, etc. Enfin, quelqu'un, pardon. Un homme.
Oui.
Et c'est vrai que le féminisme, c'est ça aussi. Le féminisme, c'est se créer des opportunités de non-mixité.
Oui, et puis aussi créer un rapport de force en notre faveur. Oui, se retrouver aussi.
Après, je pense aussi qu'en tant que lesbienne, c'est encore pire, hein. Il y a la question de la représentation, le fait d'avoir conscience ou d'imaginer être seule dans un environnement où les lesbiennes, elles n'existent pas. Même si aujourd'hui l'homophobie a reculé, on ne parle quasiment jamais de lesbienne et de lesbophobie. Donc ça, c'est vraiment très très important pour les jeunes filles, quand on voit quand même qu'elles sont très majoritairement lesbiennes ou bisexuelles, les filles qui transitionnent, qui pensent qu'elles seraient mieux en n'étant pas des femmes. C'est quand même très très... Ça interpelle, quoi.
Ce qui m'a frappée, enfin vraiment, quand j'ai fini par comprendre ce qui m'était arrivé avec cette histoire d'anorexie mentale, comprendre qu'en fait cette violence de la société, je l'avais retournée contre moi, ça m'a vraiment construit aussi mon féminisme parce que dans toutes les circonstances, tu vois que cette violence, les femmes, elles la retournent contre elles-mêmes plutôt que la rejeter à l'extérieur. Et puis, mais on n'a pas les outils, enfin je veux dire, on n'est pas éduqué pour avoir les outils pour. Rejeter à l'extérieur cette violence, l'identifier déjà, et puis la rejeter à l'extérieur. Et c'est vrai que l'apport du féminisme et l'apport de toutes ces grandes constructions féministes et de tous les concepts qui ont été bâtis par les féministes, hein, c'est ce que ça nous a donné, c'est la force de rejeter cette violence là d'où elle vient, quoi. Quand on dit la peur de changer de camp, c'est bien ça, quoi.
Oui, c'est exactement ça. Bah, du coup, ça m'amène à la dernière question. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Non. Wow, on a refait le monde là, c'est bon, hein.
Petit message d'espoir, je ne sais pas, moi.
Ah oui, un petit message, je sais pas. Ah oui, non, 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 non.
Vas-y, vas-y.
Non, ce que j'ai vu avec nous femmes, ces jeunes femmes qui sont capables d'analyser la situation, tout ce qu'elles ont traversé, les pièges de l'idéologie trans, j'ai trouvé ça merveilleux. Avec le WDI, le webinaire du WDI, où tu entends des jeunes femmes, parce que c'est surtout des jeunes femmes qui sont impliquées dans cette question trans, ce basculement contre la transidéologie, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes femmes. Donc, quand tu les entends parler, le niveau d'analyse qu'elles peuvent avoir, on se trouve merveilleux. Après, sur la question de la GPA, aujourd'hui, on est partout, au fait, où les gouvernements tentent d'ouvrir la GPA, ont construit des groupes qui se battent contre la GPA. On en a construit en Belgique, on en a construit en Irlande, en Grèce, en Allemagne. Et ça, quand on est dans l'action, quand on est capable de tenter, au moins de tenter de renverser la situation, on est à nouveau dans le combat, on est moins dans la défense, quoi. C'est vraiment, on n'a pas encore les victoires, mais presque. Si, il y en a déjà. Si, si, si. Je pense qu'on est passé sur la transidéologie, on est passé dans la période, on peut dire que à nouveau, on est moins sur la phase défensive, on est plus sur ce qui s'est passé avec le rapport CAS et tout ça, on est plus dans à commencer à capitaliser sur des victoires.
Oui, on commence à avoir des gens qui ont récupéré
Ouais.
leur fonction cérébrale.
Voilà, enfin.
Bon, c'est pas encore le cas des médias, mais on espère que ça va arriver. Tous les
Ça
médias.
arrivera. C'est toujours avec retard pour les médias, mais ça arrivera. Aujourd'hui, donc, on peut dire qu'on est sur la pente ascendante. Quelques victoires, des percées, des choses positives. Et pour continuer, en fait, il faut rejoindre le WDI, nos femmes, l'organisation qu'on a montée en France. Et on est là pour vous accueillir et pour continuer ensemble, pour aller encore plus loin. Mais il est important de se mobiliser sur ce sujet-là, sur la question d'opposition à la transidentité. Il en va de notre existence à toutes.
Oui. Donc on existe notamment sur Hello Asso, vous pouvez nous trouver facilement. Et si vous ne voulez pas vous mobiliser mais faire des dons, on a aussi besoin de ressources financières. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci d'avance.
Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, Women's Declaration. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.